Alors Patrick a parlé des bilans et des projets pour l'année. J'ai été voir un peu sur Internet qu'est-ce qui circule comme information en ce moment sur l'année 2013 et les fameuses bonnes résolutions de fin d'année. Et j'ai trouvé un article intitulé « En 2013, j'épargnerai ». Je ne sais pas si vous vous sentez concerné par ce slogan. Voilà ce que dit le texte que j'ai trouvé. Si les bonnes résolutions de fin d'année visent traditionnellement à perdre du poids, peut-être certains penseront à ça, ou à arrêter de mauvaises habitudes, le sondage, alors c'est un sondage d'une banque, montre que cette année, les bonnes résolutions sont avant tout financières. Je cite, « Les résolutions les plus fréquemment citées dans notre sondage sont « épargner plus » et « mieux gérer son argent en contrôlant ses dépenses ». Sur la base de ces résultats, nous pouvons dire que 2013 sera l'année de l'épargne. Alors avec la crise économique et financière que nous connaissons depuis certaines années, depuis quelques années, eh bien voilà, certains, et peut-être certains d'entre nous, pensent que l'épargne est un bon moyen de préparer l'année 2013. Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19. Évangile selon Luc, donc troisième livre du Nouveau Testament après Matthieu, Marc, c'est Luc, chapitre 19, et nous allons lire ensemble un texte qui nous parle d'un homme riche, et cette prédication ce matin sera la troisième et dernière d'une petite série de prédications sur la gestion des richesses, comment gérer notre argent au mieux. Je vais lire les 10 premiers chapitres, c'est l'histoire de Zachée. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette histoire ou ont quelques vagues souvenirs d'école du dimanche. Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, c'est un arbre, pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi ». Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Je vous propose de découper ce texte en trois scènes. Et j'ai intitulé la première scène, accrochez-vous, Zachée cherche Jésus. Je ne sais pas si vous avez envie de faire un petit exercice de diction ce matin. Zachée cherche Jésus, c'est pas évident à dire d'emblée. Et nous allons voir comment les trois personnages de cette première scène se situent. Alors, on va suivre tout au long de ce message Jésus, son attitude, son discours, Zachée, son attitude, son discours, et puis la foule, son attitude et son discours. Alors commençons par Jésus. Nous lisons au premier verset que Jésus est en chemin. Et c'est ce que Luc nous raconte depuis le chapitre 9 et jusqu'au chapitre 19. Jésus est en chemin, Jésus est en route vers Jérusalem. Et la ville de Jéricho est la dernière étape dans ce parcours de Jésus avant d'aller à Jérusalem. Et que va-t-il se passer à Jérusalem? Vous pourrez relire la suite de l'évangile selon Luc à la maison. Jésus va être arrêté. Il va y avoir une espèce de procès pour le condamner à mort et il va être crucifié, mis sur une croix. Et donc, on note dès le début de ce texte un mouvement de Jésus. Jésus bouge, Jésus marche, Jésus est en route et Jésus traverse la ville de Jéricho. Et c'est dans ce mouvement, dans ce voyage, que Jésus rencontre Zachée. C'est le premier point. Regardons maintenant ce que fait Zachée. Et dans cette première scène, c'est plutôt sur lui que se trouve le projecteur, si on peut dire. Que connaissons-nous de Zachée? Son nom, Zachée, sa profession, il est péager ou collecteur des taxes. Il travaille au fisc. Il est riche, nous dit le texte. C'est un cadre de la société de son époque. Quelqu'un qui a réussi socialement aux yeux des Romains, puisqu'à l'époque la Palestine est occupée par l'Empire romain. Et donc en collectant des impôts pour l'Empire romain, Zachée représente quelqu'un qui a réussi socialement dans l'Empire romain. Par contre, pour son peuple, qui est le peuple juif, c'est un traître. Il collabore avec l'occupant. Nous voyons que Zachée cherche Jésus. C'est ce que nous dit le verset 3. Il cherche à voir. Notez le verbe « voir » ou les jeux de regard que l'on va trouver à certains moments dans le texte. On va voir des mouvements dans le texte et on va voir des regards, des échanges de regards ou des regards portés sur les personnes. Un petit peu plus tôt, dans l'Évangile, au chapitre 9 et au verset 9, nous lisons « Hérode, c'est Hérode le tétrarque, disait « Jean-Baptiste, c'est moi qui l'ai fait décapiter. Alors, qui est-il celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Il parle de Jésus. Et il cherchait à le voir. On trouve exactement la même expression ici, dans la bouche du roi Hérode, qui cherche à voir qui est Jésus. Mais nous savons que les deux hommes, Hérode d'un côté, Zachée de l'autre, ne cherchaient pas à voir Jésus avec les mêmes intentions. Nous allons voir quelles sont les intentions de Zachée dans notre texte ce matin. Voyons encore les mouvements de cette première scène. Zachée court en avant, nous dit le texte. Et puis, il monte ou il grimpe sur un arbre pour voir, deuxième fois, Jésus. Zachée, lui aussi, est en mouvement. Il est aussi en action pour voir ce Jésus et essayer de comprendre qui il est. Après Jésus et Zachée, voyons maintenant ce qu'il en est de la foule, les gens qui entourent Jésus et Zachée. Eh bien, dans cette première scène, la foule nous est présentée comme ce qui empêche Zachée de voir Jésus. Zachée ne peut pas, nous dit le texte, ne peut pas réaliser d'emblée son projet. D'abord parce que la foule est nombreuse, et puis parce que sa taille, sa petite taille, le dessert dans cette situation, ne lui rend pas service. C'est pas forcément une mauvaise chose d'être petit, mais il se trouve que dans cette situation, ça ne lui rend pas service. Il veut voir Jésus, et il ne le peut pas, parce qu'il est de petite taille ou de petit gabarit, et la foule est nombreuse. Et on voit que Zachée ne se décourage pas dans cette situation, face à cette grande foule. Il ne se lamente pas sur sa petite taille pour dire oh, « voilà, je suis incapable de rien faire ». Il se bouge et il court et il monte sur un arbre parce que Jésus devait passer sur le chemin. Résumons cette première scène. Jésus est en route vers Jérusalem. Jéricho est la dernière étape dans ce voyage. Zachée veut voir qui est ce Jésus dont il a peut-être entendu parler, mais sa taille et puis la foule qui est là autour l'empêche de réaliser son projet et donc le pousse à agir. Et le voilà qui monte dans l'arbre pour voir Jésus. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette scène ? Est-ce qu'il y a un enseignement pour nous ? Est-ce qu'on pourrait résumer cette première scène en se disant « Quand on veut, on peut ». Est-ce que ce texte nous invite à faire preuve d'ingéniosité dans la vie, ou plus particulièrement pour rencontrer Jésus, pour ce qu'il en est des questions spirituelles ? Est-ce que ce texte nous invite à ne pas nous laisser arrêter par les difficultés de la vie, mais à trouver en nous-mêmes les ressources pour franchir les obstacles. Et je crois que si le texte passait directement du verset 4, où Zachée grimpe dans l'arbre pour voir Jésus, au verset 9, par exemple, où Jésus dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison », eh bien je crois que nous pourrions répondre « Oui, oui, le texte nous invite à faire des efforts pour rencontrer Jésus. » Le problème, c'est qu'il y a les versets 5, 6, 7, 8. Et je vous propose donc d'attendre un petit peu avant de tirer un enseignement de cette première scène. Il y a d'ailleurs surtout le verset 5. Et c'est maintenant mon deuxième point. Nous avons vu dans un premier temps que Zachée cherche Jésus. Et nous allons voir maintenant que Jésus cherche Zachée. Relisons le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, c'est-à-dire à l'endroit où Zachée est perché dans l'arbre pour le voir, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Nous assistons là à un retournement de situation. Jusque-là, le projecteur, le zoom était plutôt sur le personnage de Zachée. Et là, d'un seul coup, c'est Jésus qui entre en scène. Le verset 5 représente le moment de la rencontre entre Jésus et Zachée. Et si vous remarquez, c'est Jésus qui prend l'initiative de la rencontre. C'est Jésus qui lève les yeux pour regarder Zachée qui est en haut, dans l'arbre. Et c'est Jésus qui s'adresse à Zachée. Zachée cherche Jésus, mais nous voyons aussi que Jésus cherche Zachée. Et dans la deuxième partie du verset 5, Jésus lui dit qu'il y a urgence. Il parle à l'impératif, descend et dit « descends vite ». Pourquoi ? Pourquoi descendre vite ? Parce qu'il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Des verbes à l'impératif, il faut faire vite, il faut descendre aujourd'hui. On a une accumulation de verbes ou de mots qui là encore sont signes de mouvement rapide. Et d'ailleurs, Jésus dit, il faut que je loge chez toi. Et Jésus s'invite. Je ne sais pas si vous avez des gens qui se sont invités chez vous pour les fêtes. Jésus s'invite. C'est Jésus qui prend en main la rencontre. Alors que, tout au début du chapitre, dans la première scène, on a l'impression que Zachée a fait tout ce qu'il pouvait faire pour voir Jésus. Regardons maintenant ce que fait ou ce que dit Zachée, au verset 6. Eh bien, Zachée obéit. Il est tout content que Jésus s'invite chez lui. Zachée descend, nouveau mouvement dans le texte, après être monté, il descend et il reçoit Jésus chez lui. Il le reçoit avec joie. Zachée est heureux de l'initiative de Jésus, qui ose s'approcher de lui et même entrer chez lui. Et l'attitude de Zachée contraste avec l'attitude de la foule. C'est le troisième point. Au verset 7, la foule, elle aussi, voit. Le texte dit que les gens voient ce qui se passe. Souvenez-vous, Zachée veut voir qui est Jésus. Ensuite, au verset 5, c'est Jésus qui lève les yeux, qui voit Zachée. Et maintenant, c'est la foule qui voit ce qui est en train de se passer. Et que voit la foule ? Un pécheur. Et un homme qui va loger chez un pécheur, chez un homme mauvais par sa réputation, peut-être de collabo, peut-être aussi par ses actes. Et remarquez que la foule est unanime pour mettre cette étiquette sur Zachée. Tous maugréaient, tous murmuraient. Ils étaient frustrés. En parlant de Zachée comme d'un pécheur et en disant « il est allé loger ou il va aller loger chez un pécheur », la foule discrédite à la fois Zachée et Jésus. Ce n'est pas la première fois que l'on rencontre ce genre d'attitude dans l'Évangile selon Luc. Laissez-moi vous lire quelques versets que l'on trouve un petit peu plus tôt au chapitre 5 et au verset 27. Après cela, il sortit et aperçut un collecteur des taxes, il c'est Jésus, le collecteur des taxes c'est Lévi, Matthieu. Il était assis au bureau des taxes. Jésus lui dit « Suis-moi ». Celui-ci laissa tout, se leva et se mit à le suivre. Lévi donna pour Jésus un grand banquet chez lui. Il y avait une grande foule de collecteurs de taxes et d'autres personnes à table avec eux. Les pharisiens, cette fois, et leurs scribes maugréaient, même terme. Ils disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs de taxes et les pécheurs ?» Jésus leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas les justes, mais les pécheurs que je suis venu appeler, à changer de vie. » On voit donc là que cette situation se répète. La foule dans Luc 19 correspond aux pharisiens dans Luc chapitre 5. Résumons cette deuxième scène. Alors que Zachée cherche Jésus, c'est Jésus qui voit Zachée et qui lui parle en lui disant « Descends vite !» Jésus s'invite chez Zachée, qui se réjouit de la venue de Jésus chez lui. Mais ce spectacle déplaît à la foule. En lisant cette deuxième scène, je me suis dit qu'on pouvait regarder les choses, nous aussi, du point de vue de chacun. Si nous regardons les choses du côté de Zachée, je me suis demandé, et j'aimerais vous demander, est-ce que vous aussi, vous cherchez Jésus ce matin ? Est-ce que, comme Zachée, vous désirez, vous aussi, le voir, comprendre qui il est ? Il y a une bonne nouvelle. Si c'est votre cas, sachez que Jésus vous cherche lui aussi. Et on pourrait même dire lui d'abord. comme on le voit dans cette histoire de Zachée. Zachée cherche Jésus, et au moment de la rencontre, nous voyons que Jésus cherche Zachée déjà. Maintenant, si nous regardons du côté de la foule, qui sont nos Zachées à nous, aujourd'hui? Qui sont les hommes, les femmes de notre temps, de notre voisinage, oserais-je dire de notre assemblée, que nous considérons comme pécheurs? Ceux dont nous disons, moi je suis chrétien, pas comme un tel. Et puis si nous regardons du côté de Jésus, nous voyons que Jésus ne s'arrête pas ni à la réputation, ni même aux actes pécheurs de Zachée. Notez que Jésus ne contredit pas le verdict de la foule qui dit que Zachée est un pécheur. Mais si Zachée a péché, Jésus ne s'arrête pas là. Jésus pose un regard différent, un regard qui n'est ni réprobateur, ni condescendant, c'est-à-dire qui excuserait les actes de Zachée. Et la fin du passage précise le regard que Jésus porte sur Zachée. Et c'est le troisième et dernier point que je vous propose. Premier point, c'était « Zachée cherche Jésus ». Et puis, nous avons vu que Jésus cherche Zachée. Et enfin, Jésus trouve Zachée. Ce sont les versets 8, 9 et 10. Regardons d'abord Zachée, verset 8. Alors Zachée, debout, dit au Seigneur, « Maître, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple, quatre fois la somme prise. » Remarquez que Zachée est debout. On pourrait se demander, qu'est-ce que ça fait là? Eh bien, j'y vois un moment d'arrêt dans cette scène. Nous avons vu tous les mouvements. Zachée, tous les verbes d'action. Jésus va à Jéricho, il traverse Jéricho, Zachée court, Zachée monte, Zachée descend. Mais ici, Zachée s'arrête. Il est debout face à Jésus qui l'a appelé et c'est le moment du choix. C'est le moment de répondre à l'appel de Jésus. Un peu comme nous avions vu il y a 3 semaines au chapitre 18, le jeune homme riche que Jésus appelle. Et Jésus, face à cet homme qui a fait tout ce qu'il pouvait faire pour obéir à Dieu, à la loi de Dieu, Jésus qui lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, et puis viens et suis-moi. Mais lorsqu'il entendit cela, le riche, il fut très triste, car il était fort riche. En le voyant si triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que Zachée va prendre le même chemin que ce riche du chapitre 18? Eh bien non. Nous voyons que Zachée prend une décision. Il décide de donner 50%, la moitié, de tout ce qu'il a. Faites un rapide calcul, vous voyez, visualisez à peu près ce que vous avez dans vos comptes en banque aujourd'hui, vous divisez par deux. Voilà, c'est ça que Zachée il a fait. Il a pris la moitié de ses biens et il a donné aux pauvres. Et il ajoute, Si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai pris plus que je ne devais en tant que péager, en tant que collecteur des taxes, si j'ai réclamé plus d'impôts que les gens ne devaient en payer, à ces gens-là, je leur rembourse 4 fois. Quand nous lisons l'évangile selon Luc, nous voyons que Luc est particulièrement sensible aux pauvres, aux petits, pas seulement aux petits de taille comme Zachée, mais aux gens qui sont soit pauvres matériellement, soit pauvres spirituellement, c'est-à-dire qui sont humbles devant Dieu. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, nous avons évoqué l'histoire des bergers qui voient les anges leur annoncer la naissance de Jésus, non pas dans le palais des rois, mais dans une petite pièce, dans un petit bled paumé de la Palestine, Bethléem. Et ces bergers, que leur disent les anges ? Eh bien, voilà, Dieu est venu. Et les bergers à l'époque, ce sont plutôt des marginaux, des gens peu fréquentables. Aux yeux de ce monde, il y a beaucoup de pauvres. Eh bien, Zachée décide de leur donner la moitié de tout ce qu'il a. Nous voyons là que la rencontre avec Jésus transforme Zachée intérieurement. Comme s'il avait fait un demi-tour, un virage à 180 degrés. Il s'est repenti. Et la foule, où est-elle ? Eh bien, la foule est absente dans cette troisième scène. Comme si elle n'avait plus rien à dire. Les gens écoutent, les gens sont toujours là, puisque la suite du texte que nous avons lu, au verset 11, dit « Comme ils écoutaient cela, Jésus ajouta une parabole. » Et le dialogue avec la foule continue, donc les gens sont restés et ils écoutent, mais ils n'interviennent plus, ils ne râlent plus, ils ne murmurent plus. Maintenant, le projecteur est sur le dialogue entre Zachée et Jésus, sur cette relation-là. La rencontre a eu lieu, Jésus a trouvé Zachée. Et c'est pour cette raison, je pense, que Jésus, qui a rencontré Zachée, parle de lui à la troisième personne. Il dit « lui aussi est un fils d'Abraham ». Et nous voyons en fait que la foule ne prend plus la parole, mais Jésus répond à la foule dans les versets 9 et 10. Relisons-les. Après la démarche de Zachée, Jésus dit « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Et là, on pourrait dire que le verset 10 résume ces trois scènes, « Car le Fils de l'homme, » Jésus parle de lui, là, la troisième personne, « le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » La foule n'est donc pas totalement absente, mais la critique n'a plus lieu. Et c'est Jésus, encore une fois, qui conclut la rencontre avec Zachée et qui conclut avec la foule. Et que dit Jésus ? Jésus dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Et dans l'évangile selon Luc, le mot « aujourd'hui » marque souvent l'avènement du salut, c'est le moment, c'est l'aujourd'hui du salut. Je parlais des bergers tout à l'heure, au chapitre 2 et au verset 11. Les anges leur disent « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et puis au chapitre 4 et au verset 21, Jésus qui est dans la synagogue et qui lit un passage du prophète Ésaïe dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et un petit peu plus loin, au chapitre 23 et au verset 43, alors que Jésus est sur la croix, crucifié à côté de deux brigands, il dit à l'un des brigands, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On pourrait continuer dans le livre des Actes, qui est le tome 2 de l'Évangile selon Luc, au chapitre 4 ou au chapitre 26, où là encore le mot « aujourd'hui » est associé au salut. Aujourd'hui, Jésus a appelé Zachée. Aujourd'hui, Jésus nous appelle. Que dit encore Jésus ? Il dit que le salut est venu pour cette maison. C'est le salut qui est le sujet du verbe sauver. C'est pas Zachée. Ce n'est pas seulement parce que Zachée a cherché Jésus qu'il a été sauvé, mais c'est parce que Jésus cherchait Zachée. Et c'est ce que dit Jésus au verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher, et le mot chercher fait écho au mot chercher du verset 3. Au verset 3, Zachée cherche Jésus. Au verset 10, Jésus est venu chercher et sauver. C'est Jésus qui sauve Zachée qui était perdu. C'est Dieu l'auteur du salut. La foi de Zachée est le moyen par lequel Dieu opère ce salut. Mais du début à la fin, de la première à la dernière scène, c'est parce que Jésus veut sauver Zachée qu'il le cherche et que Zachée cherche Jésus. Zachée trouve Jésus parce que Jésus trouve Zachée. Et c'est pourquoi Jésus dit « Lui aussi est un fils d'Abraham ». C'est par la foi qu'Abraham a été sauvé. Et c'est parce que Dieu s'est révélé à Abraham qu'il a pu avoir la foi. Et de même, Zachée est intégré à la lignée d'Abraham, non seulement parce qu'il est juif et qu'il est circoncis de naissance, mais aussi parce qu'il manifeste la même foi que son ancêtre. Zachée est donc présenté dans la bouche de Jésus et pour la foule, Jésus s'adresse à la foule, Zachée est présenté comme un modèle de foi. Alors que jusqu'à présent, dans ce texte et dans l'évangile selon Luc, chapitre 16, chapitre 18, les riches n'avaient pas vraiment bonne presse. Eh bien, en Zachée, Dieu montre qu'il peut faire l'impossible. C'était la question des gens qui avaient vu ce riche repartir tout triste au chapitre 18, parce que Jésus lui avait dit « Mais vends tout ce que tu as, distribue-le, viens, suis-moi » Et les gens disaient « Mais alors, si lui, qui est aussi bien et aussi riche, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, qui peut être sauvé ?» Et Jésus dit « Personne. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Eh bien, dans la vie de Zachée, Jésus montre que cet impossible est possible à Dieu. Que pouvons-nous conclure de ces trois scènes, de cette histoire, de la rencontre entre Jésus et Zachée ? Comment formuler les choses pour que cette histoire nous rencontre aujourd'hui ? La première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'idée suivante. Regardons à l'œuvre de Jésus et à son œuvre complète, globale. Si l'on se fixe sur un verset ou quelques versets dans ce passage, on pourrait se dire que ce sont les efforts de Zachée ou même la simple présence de Jésus qui sauve Zachée. Mais je ne crois pas que ce que fait Zachée ou la simple présence de Jésus explique à eux seuls ce qui transforme au fond de lui-même Zachée. Je crois que c'est parce que Jésus est en route pour accomplir sa mission. C'est parce qu'après Jéricho, il y a Jérusalem, où Jésus va être arrêté, crucifié, mais où il va aussi ressusciter et monter auprès de Dieu, que Zachée est sauvé. Le salut de Zachée, comme le nôtre d'ailleurs, dépend de l'œuvre de Jésus qui est allé jusqu'à la croix. Et c'est pourquoi il est important de mettre en perspective les textes de la Bible que nous lisons. Sinon, nous risquons, en limitant notre lecture et notre compréhension à quelques versets seulement, de passer à côté du mouvement du texte. Et nous voyons dans ce texte que Jésus va à Jéricho, mais traverse Jéricho et a en ligne de mire Jérusalem. Il faut donc que nous, en tant que lecteurs au XXIe siècle de ces textes, qui ont été écrits il y a 2000 ans, nous puissions voir cette perspective. Et dans ce texte, Jésus va à Jérusalem. Sinon, nous risquons d'en rester à une invitation à être débrouillard comme le petit Zachée. Ou alors, nous inviter à donner notre argent aux pauvres. Ce qui est important, être débrouillard et donner son argent aux pauvres. Mais qui ne sauve pas. C'est l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, cette œuvre unique qui fait que Jésus, et Jésus seul, peut dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père, à Dieu, sinon par moi. » Jésus a ouvert le chemin. Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour que le salut soit possible. Donc, regardons à l'œuvre de Jésus, à l'œuvre de Jésus dans son ensemble. C'est le premier point. Le deuxième point que je retiens de cette histoire, c'est que Jésus nous appelle, nous aussi, à le suivre aujourd'hui. Il était trop tard pour le riche dans Luc chapitre 16. Jésus paraissait trop exigeant aux riches de Luc chapitre 18. Mais Zachée reçoit avec joie Jésus chez lui. L'aujourd'hui dans Luc et dans les Actes se poursuit encore dans notre aujourd'hui. Alors, si ce matin, vous n'avez pas encore reçu pour vous-même, par la foi, Jésus-Christ dans votre vie, le chez-vous intérieur, eh bien, aujourd'hui, c'est possible encore. Et si Jésus est là, chez vous, dans votre vie, la question qui se pose, que nous pose Jésus ce matin, c'est « Où est l'urgence de l'appel de Jésus ?» Nous voyons que tout bouge dans ce texte. Et Jésus demande à Zachée de descendre vite, de le recevoir aujourd'hui. Pour nous qui avons reçu Jésus, où est passé cette urgence? Où est passé ce zèle? Où est passé la spontanéité de notre réponse à suivre Jésus? Ceux qui sont fils et filles d'Abraham ne sont pas dans un espèce de confort spirituel ou matériel, mais sont des pèlerins. Nous devons nous aussi être en mouvement, comme Jésus, si nous disons que nous le suivons, puisque Jésus est devant nous sur le chemin. Je crois que ce texte nous appelle à nous mettre ou à nous remettre en mouvement. Regardons à l'œuvre complète de Jésus. Suivons-le aujourd'hui, remettons-nous en mouvement. Et puis dernier point, c'est une question. Est-ce que notre vie avec Jésus transforme notre regard sur les autres et sur l'argent. Quelques pistes pratiques. Je reprends la question de tout à l'heure. Quel regard portons-nous sur nos achats à nous, dans notre monde, dans notre entourage, dans notre famille peut-être? Quelle part de nos biens donnons-nous aux pauvres ou à l'œuvre de Dieu dans ce monde? Souvenons-nous que le riche, dans chapitre 16 de Luc, a tout gardé pour lui et il méprisait les pauvres. Lui, il a choisi l'argent avec un grand A. Dans le chapitre 18, le riche a obéi scrupuleusement aux lois de Dieu, mais il n'était pas prêt à lâcher ses biens. Et donc, à sa façon à lui, il a aussi choisi l'argent avec un grand A. On peut donc paraître très religieux, très bien, aux yeux du monde, et pourtant être sans Dieu. Et puis nous avons Luc 19 et Zachée. Et nous voyons que Zachée donne 50% de ses biens et paye ses dettes. Et nous voyons dans son attitude, qui fait suite à la rencontre avec Jésus, que Zachée a choisi Dieu. Et j'aimerais dire ceci. Sur un plan matériel ou financier, je crois que Jésus ne demande pas la même chose à chacun. Dans Luc, chapitre 18, Jésus dit à ce riche, « Vends tous tes biens !» Mais attention de ne pas systématiser ce verset. Car ce qui compte, c'est l'approbation de Jésus. Jésus approuve la démarche de Zachée dans notre texte de ce matin. Alors, la question que je vous pose est, de quoi disposez-vous au 30 décembre 2012 ? Que vous est-il nécessaire pour vivre ? Notez que Zachée n'a pas tout donné. Jésus demande des choses différentes aux gens. Qu'est-ce qui vous est nécessaire pour vivre? Qu'est-ce que vous pouvez donner? Et à qui? Y a-t-il des pauvres autour de vous? Et puis nous pourrions nous demander aussi, et je terminerai par là, de quoi dispose notre assemblée au 30 décembre 2012 ? Nous sommes en train de préparer le budget pour notre assemblée générale au mois de février. Comment investissons-nous notre argent pour le royaume de Dieu ? Quels sont les besoins, ceux de notre assemblée, mais peut-être aussi ceux des communautés sœurs à France Mission ? À Blanc-Mesnil, des associations ou des œuvres chrétiennes? Quelles seront nos priorités financières pour 2013? Est-ce que ce seront les priorités du riche de Luc chapitre 16? Tout pour moi? Ou bien celle du riche de Luc 18? Tout pour Dieu? Mais, faut pas déconner, pas mon argent. Ou bien les priorités de Zachée, tout pour Dieu, avec une grande générosité pour les autres. Amen.
J'aimerais qu'on conclue par un chant, si la technique le permet, donc juste 2 minutes. Donc c'est le gemme 141. Voilà. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on le chante debout pour conclure ce dernier culte de l'année. Et que, selon ce que le Seigneur vient de nous dire, ce soit notre aujourd'hui, le jour de notre salut. Et que, comme Zachée, nous nous mettions à la rencontre de Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus.